suis bientôt à vous. Vous avez le droit de vous saluer entre-temps. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit de repos. Assurément, pour certains, la nuit a été trop courte. Mais logiquement, vous êtes tous en confinement ou presque. Et vous êtes tous sinon en journée fériée ou presque. Daphné n'est pas en journée fériée aujourd'hui. Son CPE est toujours ouvert en raison de la pandémie. Bon, il semble que là j'ai quelques problèmes encore, comme d'habitude. Je n'arrive pas à ouvrir. Oui, j'arrive maintenant. OK. Donc, on va essayer de faire un petit commentaire juste pour lancer le débat. Voilà. Bon. Alors, mais je ne vois pas qui est rentré ou qui est là. Donc, je devrais le faire, je ne sais pas comment. Mais il est déjà 8h29, donc je suppose que les cracks de la technologie, vous me regardez aller matin après matin, puis vous vous demandez est-ce qu'il va bien finir par savoir ce qu'il est en train de faire. Bonjour Karine, je vois que tu viens de te brancher. Karine nous vient de Toulouse. Le pasteur Georges est là aussi. Lui, il vient d'un peu plus au sud de Toulouse, mais ça fait déjà plusieurs années que mon bon ami habite à Montréal, sinon il est de Marseille. Le plus bel accent de France vient probablement de la Canebière. Mon frère Georges, tu me manques. Donc, ce matin, j'aimerais reprendre tel que vous voyez dans le titre. J'aimerais reprendre un peu le texte que nous avons vu hier lorsque nous célébrions la Sainte Cène dans Luc au chapitre 22. Et le verset 15, et je veux m'arrêter sur un mot particulier que j'ai eu le temps d'effleurer juste un peu, très brièvement hier soir, que j'aimerais reprendre avec vous ce matin. Donc, je crois qu'il est déjà 8h30, oui. Alors, on va prier, et après ça, on va commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Un moment, Seigneur, où nous avons encore le privilège de nous arrêter, de réfléchir, de chercher ta face, de chercher auprès de toi la direction pour cette journée et la direction pour notre vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous instruire, de nous parler et de nous guider. Que ce moment, Seigneur, si bref soit-il, soit un moment profitable, passé dans la communion avec mes frères, bien que séparés de corps, nous savons que ton esprit a tissé des liens qui sont incassables, et nous t'en rendons grâce. Donc un temps de communion fraternelle, mais un temps précieux, où nous venons dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, et pour avoir en cette matinée qui débute, un peu de nourriture pour notre âme et notre esprit. Te demandons, Seigneur, de déverser sur nous ta grâce, de nous accorder, Seigneur, cette miséricorde de comprendre ta parole, de saisir, Seigneur, ce que tu as pour nous aujourd'hui. La parole est encore importante et combien vitale pour chacun d'entre nous, particulièrement dans les situations que nous traversons actuellement. Aide-nous, assiste-nous, guide-nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, à vous tous qui se joignez à moi ce matin, que Dieu vous bénisse. Hier soir, on a eu une merveilleuse expérience avec la prise de la Sainte-Seine. Je crois que vous étiez officiellement 75 connexions, à deux ou trois parfois dans ces connexions, et même d'autres qui se sont connectés par les diverses plateaux sur lesquels nous diffusons habituellement. Donc, on est en train de travailler à tout cela avec le frère Léonel particulièrement, voir comment on peut améliorer le tout afin de vous rendre accessible l'Église, même si vous ne pouvez vous y rendre de façon physique, voir comment on peut utiliser les meilleurs moyens technologiques, les plus simples aussi, parce que comme moi, je suppose que plusieurs d'entre vous, vous y perdez un peu avec tout ce qui se crée et tout ce qui arrive récemment dans la technologie. Donc, on essaie de trouver les meilleurs moyens pour vous rejoindre, pour vous bénir, pour vous offrir le temps de communion qui est profitable pour chacun d'entre nous, mais aussi de mettre de l'avant des outils qui seront utiles non seulement pendant cette période de pandémie, mais qui s'avéreront aussi utiles et profitables par la suite. Donc, ce matin, Luc au chapitre 22, on va reprendre depuis le verset 14. C'est encore le texte sur la Sainte-Seine, mais comme j'ai dit, je vais m'arrêter sur un mot en particulier. Alors, Luc 22, 14 nous dit: l'heure étant venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai vivement désiré de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris la coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Après, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Le verset clé pour nous ce matin, c'est le verset 15 qui nous dit: j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous. J'ai désiré vivement. Hier, j'ai effleuré la chose et je sentais ce matin de prendre un peu plus de temps pour expliquer le terme désiré vivement. C'est le terme grec epithymia. Pour ceux qui prennent des notes, c'est E-P-I-T-H-Y-M-I-A. Je répète, E-P-I-T-H-Y-M-I-A. J'ai désiré vivement. Et comme je disais hier, habituellement, ce texte ou ce mot en grec est utilisé de façon péjorative dans l'ensemble du Nouveau Testament. À part dans ce contexte-ci, tout ce que vous allez lire sur epithymia va être traduit en français contemporain par le terme convoitise. Convoitise qui n'est assurément pas une belle chose, qui n'est assurément pas une bonne chose. Convoitise que Dieu va décrier, que Dieu va condamner. La convoitise se manifeste quand là on espère ou on est avide après quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais pas simplement une envie légère. C'est comme si une passion se porte vers une chose auquel nous n'avons pas le droit ou vers laquelle nous n'avons pas la permission d'aller. Et Jésus, bizarrement, va utiliser ce terme concernant cette dernière Pâque. Et on s'entend, Jésus n'a jamais péché. La Bible nous dit, si tu convoites la femme de ton voisin, tu as déjà commis l'adultère. Mais on sait que Jésus, même s'il va faire preuve de épithymia, dans le contexte dans lequel le épithymia est commis ou est manifesté dans la vie de Jésus, c'est bien entendu pas dans un contexte de péché, puisqu'il était un agneau sans faute qui a été immolé quelques heures après ce discours à ses disciples lors de la Sainte Cène. Se porter vers une chose, être poussé vers une chose avec une effroyable passion. Voilà ce que veut dire épithymia. Et Jésus va dire, j'ai eu cette passion, j'ai eu ce désir dévorant à l'intérieur de moi de prendre cette Pâque avec vous. On pourrait se demander, mais comment pouvait-il être si passionné envers ce repas? D'une part, ça consiste simplement à du pain puis du vin ou du pain et du jus de raisin, comme vous voulez. D'autre part, c'est un repas qui symbolise un moment dramatique, un moment de souffrance atroce. Alors comment pouvait-il espérer vivement ce moment? Il espérait vivement ce moment parce que c'était un moment capital dans l'histoire de l'humanité. Il y allait avoir le avant ce moment et le après ce moment. Il allait y avoir, à partir des prochaines heures, à partir du vendredi soir, il y aurait eu avant la Pâque et après la Pâque. Et quand je dis la Pâque, je le dis avec le L majuscule, le P majuscule et le S qui est la Pâque chrétienne et qui n'est pas la Pâque judaïque que là Jésus soulignait avec ses disciples, mais qu'il annonçait comme bientôt la Pâque chrétienne. Pour ceux qui se demandent pourquoi on met un S ou pas de S, quand on parle de la Pâque sans S en français, c'est la Pâque judaïque, donc la commémoration de la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël. Et quand on met la Pâque avec un S muet en français, on parle de la Pâque qui consiste en la mort, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Et ici, bien que Jésus fêtait la Pâque judaïque avec ses disciples, il était en train d'annoncer cette toute première Pâque chrétienne. Et il disait, j'ai toujours espéré ce moment-là. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais été content du péché de l'humanité. Dieu n'a jamais été tout simplement impassible face au péché de l'humanité. Avant même qu'Adam et Ève n'aient commis le péché initial qui s'est par la suite transmis comme nature pécheresse de génération en génération jusqu'à toi et à moi aujourd'hui et jusqu'à ceux qui vont nous suivre jusqu'au retour du Seigneur, mais depuis le premier instant, depuis avant même le premier instant en fait, Dieu avait déjà pourvu un sauveur, un Messie. Mais le temps où ce Messie devait être manifesté, le temps où ce Sauveur, dans toute la plénitude du terme Sauveur, allait être manifesté, il nous fallait que le moment approprié, le moment choisi par Dieu, le moment pensé délibérément par Dieu, se manifeste. Et depuis toute l'éternité, jusqu'à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, Dieu était en attente. Dieu offrait effectivement son Fils, mais ce Fils qui allait être sacrifié à la croix était dans un processus d'attente. Voilà pourquoi Jésus va aussi dire à sa mère, lorsque sa mère le pousse à faire un miracle, il va dire « Mon temps n'est pas encore arrivé. Le temps de manifester ma gloire n'est pas encore arrivé. » Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il va se présenter aux disciples, ou lorsqu'il va demander aux disciples « Mais qui dit-on que je suis ?» et que Pierre va être poussé par l'Esprit Saint et qu'il va dire « Hé, tu es le Fils de Dieu, le Messie. » Et Jésus va dire à ses disciples « N'en parlez à personne. » Pourquoi? Parce que le temps de la manifestation du Sauveur n'était pas encore arrivé. Mais ce temps était arrêté de toute éternité. Dieu est intemporel. Dieu n'est pas affecté par le temps qui s'écoule et le temps qui passe. Mais nous sommes des êtres temporels. Nous avons un début, Nous avons un commencement, nous avons un déroulement et nous avons aussi une conclusion à notre vie. Et tout cet espace-vie que nous avons est ponctué par des moments, ponctué par des événements spéciaux, ponctué par des saisons, par des périodes de notre vie où nous changeons, où nous nous transformons, ponctué par des événements heureux qui viennent marquer ou jalonner notre cours de vie, mais aussi marqué par des moments tristes, malheureux, qui viennent affecter le cours de notre vie. Nous sommes des gens, nous sommes des êtres temporels qui vivons dans le temps. Et Dieu avait fixé dans l'histoire de l'humanité, dans le temps de l'homme, Dieu avait fixé un temps approprié où le Messie serait manifesté et où le Messie serait offert pour l'humanité comme le sauveur du monde. Et Jésus, en attendant ce moment, Jésus en espérant ou en cheminant vers ce moment marqué dans l'histoire de l'humanité, il avait simplement le désir qu'on y parvienne. Il avait le désir que ça se passe maintenant. Pourquoi? Parce que notre Sauveur, notre Seigneur ne pouvait pas supporter que la race humaine continue à vivre sans la possibilité d'un salut permanent et définitif. Et voilà ce qu'il était venu offrir à l'homme, un moment précis où à partir de cet instant-là, le voile allait être déchiré et la communication entre l'homme et Dieu allait être rétablie à travers son corps qui était brisé et à travers son sang qui était répandu. Dieu avait un temps fixé. Dieu a un temps fixé pour toute chose. Dieu a un temps fixé pour tout être humain. Je ne viens pas au monde avant que Dieu n'ait fixé et que ce moment fixé établi par Dieu ne survienne. Je ne suis pas le fruit du hasard, je ne suis pas le fruit des circonstances, comme on disait hier, mais on est le fruit de la pensée sage et incontestable de Dieu. Et Dieu avait une pensée à ton égard. La problématique avec le temps pour nous aujourd'hui, c'est que faisons-nous avec ce temps? Que faisons-nous avec les temps que Dieu a marqués, les temps que Dieu a établis? Et plusieurs d'entre nous sommes venus à la conclusion que cette pandémie fait aussi partie du processus de temps qui a été établi par Dieu. Dieu savait que la moitié de l'humanité actuellement serait en confinement. Dieu savait que la moitié du genre humain actuellement serait mis sur pause. Plusieurs ne peuvent plus ou de nombreux ne peuvent plus aller travailler. Plusieurs ne savent même pas si au retour de la pandémie, s'ils retrouveront leur contexte, leur environnement comme auparavant. Mais Dieu nous permet pendant ce temps d'arrêt que Dieu connaissait, pour lesquels Dieu nous a préparés ou pour lesquels Dieu nous avait appelés à être présents, Dieu savait aussi ce que nous avions à faire de ce temps-là. Et la question pour toi et pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce moment précis? Que fait-on de ce temps de pause? Est-ce qu'on reconnaît effectivement la main de Dieu dans ce qui se passe actuellement comme étant celui qui veut façonner nos vies dans le moment ou dans le laps de temps qu'il nous accorde actuellement? Dans le Nouveau Testament, il y a deux termes grecs qu'on utilise pour le terme « temps » en français. Il y a le terme « chronos » et il y a le terme « kairos ». Le terme « chronos », c'est le temps qui s'écoule. C'est cette clepsydre, ce sablier dont les grains de sable s'écoulent les uns après les autres et qui marque un laps de temps. On voit le sable s'égrainer dans la clepsydre et ça mentionne le temps qui vient de défiler et qu'on ne peut plus rattraper parce qu'il est déjà dans le passé. On peut regarder ce qui se passe comme une clepsydre. On peut regarder ce qui se passe tout simplement comme un sablier qui est en train de s'égrainer et un jour on va arriver, comme les instances publiques le disent actuellement, on va arriver au sommet de la courbe au sommet de la pandémie et après avoir gravi, mais bientôt elle va commencer à décroître. Et on peut observer les choses tout simplement comme un badaud qui regarde le temps défiler. Le deuxième terme qui est utilisé dans la question du temps, et je crois qu'il est important pour nous aujourd'hui, c'est le terme kairos. Et le terme kairos veut plutôt dire l'administration du temps. Être conscient et profiter à son maximum du temps présent. Mais pas profiter au maximum pour se payer la belle vie, pas tirer le maximum de plaisir de la vie de tous les jours, mais rendre ce temps profitable. C'est ce que Jésus va dire aux chefs religieux de son époque lorsqu'il va dire « Ben, vous voyez le temps qu'il fait ce soir, vous voyez s'il y a un nuage qui se lève à l'horizon, à l'occident, et vous vous dites « Bon, la pluie s'en vient. » Vous voyez si le ciel est de telle et telle couleur, et vous vous dites « Ben, demain il fera beau ou demain il fera moins beau. » Mais il va leur dire « Mais vous êtes des hypocrites, parce que vous ne savez pas discerner ce temps-ci. » Vous ne savez pas discerner ce temps-ci. Et là, il utilise le terme « kairos ». Vous ne savez pas quoi faire avec ce temps-ci. Vous ne savez pas profiter dans son maximum de ce temps-ci. Et soyons honnêtes, au niveau des entreprises qui ont envoyé leurs employés travailler en ce qu'on appelle le télétravail, plusieurs sont allés travailler à la maison, mais vont passer une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, on ne sait combien de temps, et on sait que le rendement de travail de ces gens-là ou d'une partie de ces gens-là, n'est pas profitable. Plusieurs d'entre eux sont en fait en repos, en attente et en pause pendant toute cette période de confinement. Il y en a d'autres, par contre, qui vont profiter de ce confinement pour faire un maximum de choses, un maximum de travail, peut-être reprendre du temps perdu sur une accumulation de travail en arrière et rattraper le temps, peut-être avancer dans des projets qu'on avait mis en pause pour l'instant et se mettre à travailler sur ces travaux-là ou sur ces œuvres-là. C'est la même question pour toi et pour moi dans notre vie spirituelle et dans notre temps avec le Seigneur et dans notre état spirituel. Allons-nous profiter de ce temps tout simplement pour le voir et le regarder fondre à l'horizon dans le sens du chronos, du chronomètre qui s'égrène, de cette clepsydre qui est en train de se vider, ou allons-nous profiter du temps présent dans la pensée de kairos qui veut dire administrer le temps sagement? Est-ce que je vais chercher la face de Dieu pour qu'il me modèle, pour qu'il me façonne, pour apprendre davantage de lui, pour passer davantage de temps dans sa présence, pour être sûr que lorsque je vais sortir de la période de pandémie, je sois dans un meilleur état spirituel que lorsque j'y ai accédé? Est-ce que tu peux t'assurer, est-ce que tu vas faire les efforts afin que à la sortie de la COVID-19, parce que oui, à un moment donné, il y aura une sortie de cette crise, mais peux-tu assurer Dieu? Peux-tu faire les efforts? Peux-tu te faire la promesse à toi-même et faire le vœu à Dieu qu'effectivement, pendant cette période de pause, tu vas appliquer le kairos et tu vas sagement administrer ce temps comme un temps que Dieu te donne pour faire une différence dans le parcours de ta vie. Il y a deux semaines, je parlais de façon prophétique concernant l'Église et j'expliquais que le monde s'en va dans une ère, dans une zone qui est totalement inconnue et que nous, en tant qu'Église, nous devons aussi permettre à Dieu de nous adapter, de nous façonner, de nous modeler pour cette nouvelle étape. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent simplement que le temps s'écoule afin d'aller à la présence de notre Dieu le jour où il nous ramène à la maison. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent notre mort tout simplement, et nous ne sommes pas de ceux qui attendent tout simplement, passivement, le retour du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il vient enlever son Église. Mais nous sommes de ceux qui rachètent le temps. Nous sommes de ceux qui comprennent que nous avons à travailler durant cette période. Et le temps qui va venir après la COVID-19 ne nous permettra pas de prendre un autre temps supplémentaire pour nous préparer. Dieu nous fait la grâce dans ce moment que nous vivons de pause. Dieu nous fait la grâce dans ce temps de pandémie, d'être arrêté, d'être ralenti dans notre travail, d'être ralenti à nos yeux dans notre parcours, mais pour que nous puissions travailler davantage à notre préparation pour ce à quoi il nous appelle pour après la COVID-19. Je n'aurai aucune excuse. Tu n'auras aucune excuse de ne pas être prêt pour ce qui vient après. Ce n'est pas que tu n'auras pas été averti, ce n'est pas que tu n'auras pas eu le temps de te préparer. Il est temps aujourd'hui de racheter le temps. Il est important aujourd'hui de se préparer pour ce qui vient après. Parce que au moment où les portes vont s'ouvrir après la COVID-19, il sera le temps pour toi et le temps pour moi d'être pleinement actif, de courir dans cette nouvelle carrière, de courir dans cette nouvelle étape de vie, de courir dans cette nouvelle étape de l'histoire de l'humanité comme étant les porte-voix adéquats pour cette génération, comme étant les sentinelles adéquates pour cette génération et pour ce temps-ci. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite, je t'exhorte, arrête de regarder le temps comme le chronos le fait. Arrête de regarder le temps simplement comme quelque chose qui s'écoule, comme toi qui allant, qui va graduellement vers la rencontre avec Jésus ou vers ta mort. Arrête de regarder le temps simplement comme quelque chose qui passe devant tes yeux, mais profite de ce temps avec la sagesse du Kairos, avec la sagesse de l'administrateur du temps que Dieu t'accorde, afin d'être prêt pour les défis, pour le travail, pour le mandat, pour le dessein que Dieu a fait pour toi, pour la vision qu'il veut partager avec toi. Il a besoin d'un peuple qui est prêt. Il a besoin d'un peuple qui est armé. Lorsque Gédéon va aller attaquer Madian, qui est nettement plus grand, nettement plus imposante, il va dire à tous ses serviteurs, les 300 fidèles qui sont restés auprès de lui, il a dit, vous allez partir avec des cruches, avec un flambeau et avec une trompette. Et au moment où vous en recevrez l'ordre, au moment précis, vous casserez tous les jarres que vous avez, vous casserez tous les vases que vous avez, afin que la lumière jaillisse et vous vous mettrez tous à souffler dans la trompette et Madian sera battu. Lorsque Jéricho a été tourné, on a tourné autour de Jéricho pendant 7 jours. Silencieusement. Puis le 7e jour, on a tourné autour de la ville 7 fois sans arrêt. Et au moment opportun, au moment fixé, le peuple s'est mis à crier et les murailles de Jéricho sont tombées. Il en est de même pour Montréal. Il en est de même pour la population qui entoure notre église, qui entoure l'église avec un grand E. Au moment opportun, le COVID sera retiré. Au moment opportun, le temps va arriver. Et il sera le moment que l'Église se mette à crier, pas que l'Église se mette à réchauffer sa gorge, à réchauffer sa voix, pas que l'Église se mette en action, mais il sera le temps que toi et que moi, en tant qu'enfants de Dieu, au moment donné, au moment précis, nous nous levions et nous commencions à proclamer notre roi. Ce moment-là arrive et nous sommes en pause, nous sommes en arrêt, en préparation pour ce moment-là. Alors, le défi pour toi et pour moi aujourd'hui, abandonnons le chronos, arrêtons de regarder le temps qui passe et devenons actifs dans notre préparation pour cette rencontre avec l'histoire de l'humanité. Je crois fermement qu'il y a des choses grandioses qui vont se passer après le COVID-19. Je crois que l'Église va être amenée à jouer un rôle encore plus important qu'elle n'a jamais eu dans notre vivant, de notre vécu. Je crois qu'il y a un moment donné, fixé, prévu, planifié de toute éternité par Dieu pour que toi et moi, s'étant bien préparés, s'étant bien adapté, ayant été bien modelé par le Seigneur durant cette période de confinement, pour qu'on arrive après ce moment de confinement et qu'on se mette à crier, ayant bien profité du kairos, de la sagesse de gérer notre temps. Mon frère, ma sœur, je m'excite tout seul actuellement. Là. Je suis devant vous, je me vois gesticuler dans mon écran et je me dis, je ne sais pas si ça passe avec les gens, je ne sais pas s'ils comprennent le cœur de Dieu actuellement. Mais c'est temps, mon frère, que tu arrêtes de regarder le temps qui s'égrène, qui passe tout simplement. Il est temps que tu sois un administrateur de la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée et qui est le temps. Tu as un temps qui a été fixé entre ta naissance et ta vie et tu auras à rendre des comptes à Dieu pour ce temps qu'il t'a fixé entre ta naissance et ta vie. Tu auras à dire à Dieu ce que tu as fait. Il aura à rendre un jugement sur comment tu as administré ce temps. Alors sois un bien-aimé qui soit imprégné par la pensée du kairos. Sois un bien-aimé qui soit imprégné par ce désir de gérer adéquatement son temps afin de se manifester comme étant un porte-voix, comme étant un messager, comme étant une sentinelle de cette époque-ci. Mon frère, ma soeur, je m'arrête là. Je m'arrête là ce matin. C'était pas supposé être une prédication, c'était supposé être juste un temps de dévotion. Vous avez eu un bonus, vous avez eu toutes mes émotions avec. De toute manière, il y a quelques années, je vous ai dit que quand je vais me coucher le soir, je veux m'assurer que je vous ai prêché comme si c'était la dernière fois. Et j'ai ce sentiment actuellement. Si ça devait être la dernière prédication que je vous donne, ou si c'était la dernière parole que je vous donne, soyez de bons administrateurs du temps. Amen. Alors tu as toute cette journée encore pour réfléchir, prier, chercher la face de Dieu. On se retrouve ce soir à 19h ce soir pour la prière. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, tu es allé plus loin que je ne l'aurais imaginé ce matin. Alors merci pour ta provision, Dieu. Merci pour ta parole pour nous ce matin. Que cette parole ait un impact clair et définitif dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Que nous ne regardons plus le temps comme la clepsydre qui s'égrène et qui s'écoule dans la pensée du chronos, du chronomètre. Mais Seigneur, nous voulons regarder le temps avec cette pensée de l'administration du temps. Sachant, Seigneur, que tout ce que tu nous as donné et le temps est aussi un don de ta part. Pour toutes ces choses que tu nous as données, nous serons amenés en jugement. Et nous aurons des comptes à te rendre. Aurons-nous été de bons administrateurs des biens que tu nous donnes? Aurons-nous été de bons administrateurs du temps que tu nous donnes? Et Seigneur, nous savons que le seul investissement qui perdure jusque dans l'éternité, c'est ce qu'on fait pour toi. Le seul investissement de temps qui compte jusque dans l'éternité, c'est ce qu'on fait pour toi. Nos possessions, nos accomplissements humains ne nous suivront pas dans l'éternité, mais strictement ce qu'on aura fait pour toi et pour ton royaume viendra avec nous dans l'éternité. Alors je prie que ma sœur et que mon frère, ce matin, soient saisis par la pensée du kairos, que mon frère et ma sœur soient saisis par ce désir d'être redevables et d'être de bons administrateurs, de bons gestionnaires du temps que tu leur accordes. Qu'ils aient quelques heures ou qu'ils aient encore plusieurs décennies devant eux. Je prie, Seigneur, que lorsque tu penches le regard sur leur vie, que lorsque tu penches le regard sur mon frère et sur ma sœur, tu les juges comme de bons gérants du temps que tu leur as donné, de bons administrateurs de ce laps de vie que tu leur donnes, et que le résultat de leur travail soit en toute chose pour ta gloire et simplement que pour ta gloire. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Alors, j'ai été content d'être avec vous ce matin. Le réseau fonctionne un peu moins bien aujourd'hui, donc je ne peux pas vous saluer tous et chacun. Je vois toutefois que vous êtes 44 à être connectés via Facebook. Probablement qu'il y a des gens qui se connectent aussi d'une manière que je ne peux pas voir. Et dans ces 44 connexions, je sais que à certains endroits, vous êtes deux ou trois que vous partagez la connexion. Donc, merci d'être fidèle au rendez-vous. Nous nous retrouvons ce soir, 19h, pour un temps de prière, un temps de requête. C'est le vendredi saint que nous appelons. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 ans aujourd'hui, le Sauveur de l'humanité mourait accroché à la croix. Peut-être une suggestion pour vous aujourd'hui, au lieu de regarder un tas de vidéos YouTube, peut-être regarder un film sur la mort de Jésus. Je ne vous citerai aucun film, vous pouvez par vous-même en regarder plusieurs. Certains vont parler plus aux uns qu'aux autres, mais prenez l'occasion peut-être de visionner un film en famille. Prenez l'occasion peut-être de relire les textes concernant la passion, concernant la mort de Jésus. Simplement se rappeler que si nous sommes là aujourd'hui et si nous aspirons à l'éternité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un sauveur qui est venu sur cette terre comme un homme tout banal comme vous et moi, mais banal, mais n'ayant pas commis de péché. Il était Dieu fait homme, 100% homme, 100% Dieu. Et après 33 ans ici-bas sur terre, les hommes se sont ligués contre lui. L'ont crucifié à la croix, l'ont fait mourir pour ton pardon, pour mon pardon, pour ton salut et pour mon salut. Alors je pense que c'est peut-être une bonne chose d'être un administrateur de cette journée et de passer un peu plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière et pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, dans le visionnement d'un film qui nous rappelle ce que Jésus a eu à vivre pour toi et pour moi. Donc on se retrouve par la suite à 19h ce soir pour notre temps de prière et de requête. Que Dieu vous bénisse. J'ai très soif, j'ai mon café. Donc je bois à votre santé et je vous aime beaucoup. Merci d'être là. Merci pour vos prières et on se retrouve ce soir. Au revoir à tous.